Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Il fait la grande voile!
Écologie.
Il n'y a pas de voile, abruti!
Politique, culture et société. Et parfois, un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Il est 18h en cette journée du mardi 3 janvier 2023. Vous écoutez le sous-marin, votre émission d'actualité préférée, bien évidemment sur les ondes de Radio Campus. Aujourd'hui, comme pour le reste de la semaine, vous pourrez écouter une sélection de nos meilleures interviews. Mais avant tout, dans les studios, je suis avec Adèle, notre service civique community manager. c'est ta première émission en live. Comment tu te sens ?
Eh bien écoute, ça va. Je suis un peu stressée, mais ça devrait bien se passer.
Évidemment, ça va très bien se passer. Et en parlant de première fois à l'antenne, on accueille également une nouvelle chroniqueuse, Margot, qui va nous parler de la relation entre la lecture et la musique. On pourra également écouter une capsule pensée locale de La Frappe. Adèle, aujourd'hui, c'était ta reprise, mais c'était aussi la reprise pour tous les étudiants et les élèves. Ça tombe bien, en décembre, j'ai pu recevoir Laurent Mersman et Nicolas Raymond, deux chercheurs en mathématiques de l'Université d'Angers, pour parler du retour des maths obligatoires au lycée.
On vous propose aussi d'écouter une interview préparée par notre chère camarade Mathilde, qui nous rejoint la semaine prochaine. D'ailleurs, petite pensée à elle.
Petite pensée pour Mathilde.
Voilà. Elle a pu discuter avec deux membres de la boîte à Malice, une association qui propose un accompagnement pour les parents. C'est la nouvelle année.
C'est vrai ça.
Et pour beaucoup, aujourd'hui, c'est même la rentrée. Dans tous les cas, on souhaite un bon courage à tout le monde. Mais au diable cette nouvelle année. Vivons l'instant présent et partons en immersion, dans le sous-marin pendant une heure.
18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et on commence cette émission avec toi Margot. Salut Margot.
Salut Augustin.
Aujourd'hui, c'est ta première chronique avec nous sur les ondes de Radio Campus Angers. Et toi, ton truc, c'est la littérature. Et tu voulais nous parler de la lecture en musique.
C'est ça. Je sais pas si c'est quelque chose que vous faites, vous, lire en écoutant de la musique. Mais personnellement, c'est une habitude que j'ai depuis une bonne dizaine d'années, soit la moitié de ma vie. Pour que ce soit plus clair, je vais parler d'un exemple de duo album et livre que j'ai lu et écouté cet été. Donc c'est l'album Amir de Tamino et le roman La mort du roi de Songor de Laurent Godet. Et si vous ne connaissez aucun des deux, pas de panique, c'est pas important. Ce dont je veux parler, c'est la relation que j'ai faite entre les deux œuvres. Pour un peu de contexte, j'écoutais déjà Tamino depuis quelques semaines, donc par là je veux dire que j'avais son album en boucle dans les oreilles, et j'avais lu des extraits du roman de Godet que je me suis décidée à acheter finalement. Et les deux mélangés, je sais pas, ça a fait un boom dans ma tête. On a l'influence arabe des mélodies de Tamino, on a son vibrato, sa guitare, le côté très oriental de sa musique, et je trouvais que ça collait parfaitement avec Massaba, ce pays imaginaire de Godet. La poésie des paroles de Tamino aussi, liée à celle des mots de Godet, c'était incroyable. Et je voyais parfaitement Sango Kerim chanter à Samilia le titre Habibi de Tamino pour lui rappeler sa promesse d'enfant. Il devait se marier, mais elle avait trahi sa promesse en se fiançant à Kwame, prince des terres du sel. Titre Perséphone que Kwame pourrait chanter à Samilia. Il l'aime, elle l'aime, mais il va causer sa chute, parce que si la guerre se déclenche à Massaba, c'est parce que Samilia refuse de choisir entre ses deux prétendants, Kwame et Sango Kerim.
Yes, my love, I confess to you. I've nothing but the means to break your heart in two. My part and yours may seem important now.
Dernier exemple, le titre So It Goes, qui parle de la royauté mais aussi de la mort, serait une bande-son parfaite pour accompagner les apparitions fantomatiques du roi Songor auprès de Catabolonga, son fidèle serviteur.
I crown the same old passing of time. Gave the golden scepter, though it was never really mine.
J'avais choisi au départ d'écouter cet album en lisant le roman de Godet parce que j'y avais vu des influences un peu orientales. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir d'autres connexions entre les deux œuvres et c'est vraiment une expérience très singulière que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous encourage très vivement à lire en musique, si bien sûr vous pensez pouvoir vous concentrer à la fois sur ce que lisent vos yeux et ce qu'entendent vos oreilles. Parce que de temps en temps, ça donne lieu à des découvertes vraiment belles. Et surtout, écoutez Tamino, parce que c'est génial.
Merci Margot, écoutez Tamino, c'est vrai que ça m'a donné beaucoup beaucoup envie d'écouter.
Ah là là, le retour des cours, c'est sympa, et en même temps, c'est pas folichon quoi.
Oui, c'est clair.
Mais tiens, c'est bizarre, qui dit cours, dit mathématiques.
C'est vrai.
Est-ce que t'as capté ma petite transition ou pas là?
Elle est fine.
Augustin. T'as pu discuter avec deux chercheurs en mathématiques de l'Université d'Angers concernant la décision du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, pour le retour des mathématiques obligatoires pour tous les élèves au lycée.
Bonjour Nicolas Raymond et bonjour Laurent Mersman. J'espère que je prononce bien le...
Oui, c'est très bien.
Ok.
Bonjour.
En 2019, avec les grandes réformes du lycée et la fin des filières générales S, L et ES, les mathématiques sont devenues optionnelles. Les mathématiques ayant une mauvaise réputation de matière ennuyeuse et inutile, on va revenir dessus, fatalement, cela a entraîné une chute du nombre d'élèves qui apprenaient cette matière. Le 13 novembre, le gouvernement a fait marche arrière et a remis des cours de mathématiques obligatoires pour toutes les classes de première dès la rentrée 2023. J'aimerais qu'on revienne sur cette période 2019-2022 qui est encore en cours. Quelles conséquences a entraîné la mise en option des mathématiques au lycée ?
Bah, je pense que c'était un énorme recul, en fait. Contrairement à cette idée reçue, les mathématiques sont très utiles, on va développer certainement ça après. Elles sont extrêmement importantes. Je dirais même qu'elles sont malheureusement un facteur d'exclusion, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un certain niveau mathématique dans vos études, au niveau collège, lycée, après, beaucoup de portes se ferment.
Pour l'orientation.
Pour l'orientation, pour les métiers que vous pouvez faire. Donc c'est quand même très gênant de dire finalement y a toute une partie des élèves, on va les laisser tomber, on va leur dire vous n'aimez pas les maths, c'est difficile, laissez tomber, ça n'est pas grave. Ben si, c'est grave. Et il est intéressant de noter d'ailleurs que quand il y a eu cette annonce de suppression, bon, beaucoup de personnes sont montées au créneau pour dire que c'était dangereux, c'était une mauvaise idée. Bien sûr, il y avait les sociétés savantes de mathématiques, bien sûr, il y avait les associations de professeurs.
Je vous invite juste à bien mettre votre micro, excusez-moi, je vous interromps. Ouais.
Etc. Pas seulement de professeurs de mathématiques, d'ailleurs, professeurs et chercheurs de sciences en général, mais il y avait aussi les grands patrons. Pourquoi les grands patrons ? Alors certains peut-être parce qu'ils ont une bonne idée, ils ont une nostalgie des cours de maths qu'ils ont eu, c'est possible. Mais de façon très pratique,
pour avoir des chercheurs, des mathématiciens,
oui,
des scientifiques.
Oui, parce que concrètement, ils savent que une bonne formation mathématique, ça vous donne des employés, ça vous donne des collègues qui sont plus productifs, qui sont plus efficaces dans leur travail, qui arrivent à réaliser leurs tâches avec une économie de pensée que d'autres n'ont pas. Et ça s'apprend, hein. c'est pas inné, ça s'apprend. Et donc on s'était privé de ça.
Vous voulez rajouter quelque chose, excusez-moi.
Oui, en fait, on peut même donner des chiffres assez explicites. Par exemple, il y a une étude du CNRS de 2019 qui indique que les mathématiques sont à peu près responsables de plus de 17% du PIB de la France. Que 13% des emplois en France sont directement impactés par le fait d'avoir fait des études de mathématiques.
En lien avec les technologies, les sciences physiques, etc.
Toutes sciences confondues, les mathématiques interviennent dans toutes les sciences. Si vous prenez par exemple les sciences physiques, la plupart des lois physiques sont formulées uniquement avec des mathématiques.
Les classes de première qui n'ont pas choisi l'option mathématique auront donc 1h30 de maths par semaine obligatoire. une heure et demie par semaine, c'est pas énorme. Est-ce que c'est une mesure suffisante à vos yeux, cette nouvelle mesure de Pape Ndiaye pour la rentrée 2023?
En fait, on peut que se réjouir du fait qu'on se rende compte que les mathématiques soient vraiment importantes. Le fait qu'on rajoute une heure trente de mathématiques, ça veut dire qu'on considère que c'est important. Mais ça ne va pas forcément résoudre le problème de fond que vous avez évoqué au début, en fait. En fait, on a perdu à peu près un tiers des étudiants avec la réforme, avec le choix des options après la seconde. On a perdu 33% d'étudiants qui font plus du tout de mathématiques.
Mais certains devaient se dire chouette, pas de maths, peut-être.
Peut-être, mais en fait, ce que je dirais, c'est que l'abandon des mathématiques en fin de seconde, ça ne relève pas d'un choix vraiment éclairé. Et en fait, c'est pas un choix éclairé, on peut le voir encore une fois avec des chiffres très explicites. j'ai travaillé avant de venir. c'est surtout... si vous voulez un exemple concret, donc Laurent Merceman évoquait le fait que ça amène de l'exclusion, en fait. La réforme a amené l'exclusion des filles des mathématiques. Le public qui était exposé à plus de 6 heures de mathématiques en terminale, c'était pour 47,5% des filles avant la réforme. Aujourd'hui, c'est 36%. Donc on a perdu 10% de filles exposées à 6 heures de mathématiques en terminale.
Parce que les parents veulent moins que leurs filles fassent des mathématiques, c'est un processus qui est moins courant ?
Bon, je sais pas, moi j'interpréterais ça en termes de censure sociale, en fait. D'accord. Tout simplement. On va dire que les mathématiques, c'est une discipline élitiste, qu'il faut être sûr de soi pour aller faire des mathématiques. Ce n'est pas vrai. Les gens qui font des mathématiques, les professionnels des mathématiques, sont des personnes qui doutent de façon constante sur ce qu'ils disent, sur la vérité, la pertinence de leurs propos.
Une phrase que j'ai entendue 1000 fois quand j'étais au lycée, c'était « Non, mais j'ai pas prévu de faire des sciences, donc vraiment, à quel moment j'aurais besoin de la trigonométrie ?» Bon, alors ça, c'est une phrase parmi d'autres. On croit que les mathématiques sont inutiles si on n'en fait pas son métier. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette affirmation ?
Je dirais il y a plusieurs choses à dire. D'abord, je dis souvent à mes étudiants, par exemple, quand je fais un cours, je sais pas, de série de fonctions, vous savez, même moi qui suis un mathématicien professionnel, je passe pas mon temps à faire des calculs de série de fonctions en dehors de ce cours. Donc, y a cette vision un petit peu limitée qui consisterait à dire que ça doit être utile tout de suite et exactement sous cette forme. Peut-être le plus important à dire, c'est encore une fois... Ah, décidément, j'ai un problème avec ce micro. Peut-être le plus important à dire, c'est déjà toutes les compétences, encore une fois, que ça apporte. Nos étudiants, bon, moi j'étais responsable de master pendant pas mal de temps, on l'a tous constaté, en général, nos étudiants à la fac en maths se placent très bien sur le marché du travail. S'ils vont jusqu'à faire un master, actuellement il faut faire un master.
En tout cas, dans la filière générale, tant que c'est pas professionnalisant. Oui.
Voilà. Et ils font généralement pas des maths. Ils utilisent pas ce que j'aurais enseigné directement en cours sur la courbure de Gauss ou des trucs comme ça. Mais ils ont des compétences d'analyse, de rigueur, capacité de synthèse aussi, de raisonnement, qui font qu'ils sont très appréciés. Donc c'est une première chose qu'on peut dire. Après, une autre façon de voir les choses, c'est dire que tout ce que vous voyez autour de vous, à peu de choses près, en particulier la radio, si on peut faire de la radio, c'est parce que à un moment, les physiciens ont décrit les ondes. Si les physiciens ont décrit des ondes, c'est parce qu'à un moment, qu'ils ont pu les décrire, c'est parce qu'à un moment, il y a eu des mathématiciens qui leur ont fourni des outils mathématiques pour faire ça. Évidemment, fort heureusement, on n'est pas obligé de connaître toute l'histoire et toutes les maths derrière pour faire de la radio ou pour l'écouter. Mais quand même, il faut avoir en tête que si personne n'avait fait de mathématiques, tout ça n'existerait pas. Et c'est aussi pour ça, si je reviens à cette tribune des grands patrons, c'est pour ça que ça les intéresse qu'il y ait des mathématiques. Donc c'est utile. C'est utile aussi pour la suite. Je ne sais pas quelle sera la prochaine grande invention, mais je sais qu'il y aura des mathématiques derrière. Ça, c'est évident.
On observe aussi un vrai manque de candidats pour les concours de professeurs de sciences et de mathématiques, de gens qui se présentent pour les concours. On dit d'ailleurs ironiquement qu'être prof de maths, c'est le plus simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se présentent. Je caricature, mais c'est ce qui se dit. Comment est-ce qu'on peut rendre les maths et les sciences plus largement plus attractives ?
Alors... Ça, on a une. Bon, je pense qu'il faudrait qu'on revienne sur, euh, sur le fondamental, c'est-à-dire, on a beaucoup parlé de 1h30 en plus, 1h30 en moins, bien sûr c'est important, c'est la structure, mais le plus important c'est quand même les programmes, le contenu des programmes. Si vous voulez un enseignement de qualité et un enseignement qui plaise aussi, il faut que les programmes soient de qualité et il faut aussi que vous progressiez. Un des problèmes actuellement au collège, pour autant que je puisse juger, c'est que vous avez les élèves refont chaque année les mêmes activités et puis on passe à autre chose et ça progresse pas beaucoup.
Et du coup, ça rend plus la matière redondante.
Voilà. Donc,
redondante à la fois sur certaines choses et on omet aussi de parler de certains sujets. En fait, quand on répète certaines choses, de fait, on ne parle pas d'autres choses. Donc, ce que Laurent disait sur le fait qu'il faut une certaine cohérence, une continuité dans l'enseignement des mathématiques, il faut voir qu'on fait des mathématiques du CP jusqu'à à peu près la classe de terminale, quand on en fait effectivement jusqu'en terminale, c'est une amplitude de 12 ans. Donc il faut forcément qu'il y ait des programmes qui soient cohérents, et particulièrement pour les mathématiques procèdent par construction successive, il faut connaître certaines choses pour pouvoir en connaître d'autres, et il y a un ordre en fait dans l'apprentissage des mathématiques.
Et on ne le retrouve pas dans l'enseignement actuellement?
C'est très complexe, c'est une amplitude de 12 ans, donc il faut que ce soit vraiment pensé de façon cohérente. Par exemple, donc là il y a eu une annonce récente du ministre, notamment sur l'option mathématiques complémentaires en terminale. C'est une option qui représente à peu près 3 heures de mathématiques par semaine, donc qui était destinée à l'origine, en tout cas jusqu'à l'an dernier, peut-être encore cette année, aux élèves qui ont suivi les mathématiques en première, dans la spécialité mathématiques, et qui l'ont abandonnée. Donc une des annonces du ministre, ça a été de dire, le module de mathématiques complémentaires destiné à ce public, qui veut continuer à faire des mathématiques, on va l'ouvrir à tout le monde, y compris à ceux qui n'ont pas fait de mathématiques en première. Donc ça c'est encore un changement qui pose des problèmes, c'est-à-dire qu'on va mettre a priori dans les mêmes classes des élèves ont des profils complètement différents.
Cette modulabilité, je ne sais pas si c'est un terme qui existe, mais le fait d'avoir rendu les apprentissages modulables, on choisit nos matières, est-ce que c'est quelque chose qui concrètement est positif pour l'apprentissage des élèves?
Est-ce qu'on est capable, en fin de seconde, de se rendre compte des choix qu'on fait et de leurs conséquences? Est-ce que c'est un choix éclairé?
Mais il faut dire qu'avant, les filières... Enfin, moi, j'ai encore fait la S. S, L, E, S, c'était quand même assez sectorisant. Et ça pouvait être aussi vu en mode, bon, bah, je suis en S, je ne sais pas qu'est-ce que je fais là. Ça peut être aussi un biais d'esprit de s'engouffrer dans une filière sans trop se poser de questions aussi. C'est aussi un biais dans le fait d'être trop guidé, je ne sais pas.
Je pense toujours à ce texte d'Alain, je crois, ce très beau texte d'Alain, où il dit, il parle de la liberté. Si mes souvenirs sont bons, il dit, si vous êtes dans une barque sur un étang et que vous ne savez pas ramer, vous ne savez pas comment naviguer, certes, vous êtes soi-disant libre d'aller où vous voulez, mais en fait, vous ne pouvez aller nulle part. Et là, c'est un peu pareil. Si on ne vous donne pas les clés dans les choix, ok, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais ça risque d'être assez catastrophique ensuite. Et c'est ce qui se passe. Si vous regardez le système espagnol, par exemple, qui est pas forcément exceptionnel sur d'autres points, mais au moins, dans le système espagnol, quand vous entrez à l'université, vous devez faire un examen d'entrée, et selon ce que vous faites, selon ce que vous allez faire, donc vous avez des notes, et puis selon la filière que vous choisissez, il y a des coefficients qui sont différents. Donc vous savez au départ que si vous voulez faire telle filière, il y aura des gros coefficients, par exemple en maths et en physique, donc c'est particulièrement important, donc vous savez que ces filières-là, pour ces filières-là, vous ne pouvez pas abandonner maths et physique. Ici, on veut faire choisir les élèves, mais en même temps, on ne leur donne pas les clés. On ne leur dit pas de façon claire ceux qui doivent garder s'ils veulent faire telle chose. Donc ça c'est déjà un très gros problème.
Ça relève aussi d'un défaut de mise en place de l'orientation pour les élèves à la sortie du lycée.
Oui, mais c'est aussi la façon dont ça a été conçu. Alors, je prétends pas tout connaître sur la façon dont la réforme a été conçue, mais à ma connaissance, nous, par exemple, les universitaires, nous avons été très peu consultés.
D'accord.
C'est quand même nous qui sommes bien placés pour dire si vous voulez venir chez nous dans telle filière, il faut avoir suivi tel ou tel prérequis. Quand même. Et ce travail, il n'a pas été fait. Ouais. Pas assez.
Durant la seconde partie du XXe siècle, on a vécu un formidable essor technologique des sciences, enfin un formidable essor des sciences. Elles ont occupé une place hégémonique. On a associé le progrès de nos sociétés avec le progrès technologique et scientifique. Maintenant, on se rend compte des retombées de cet effort, de cet essor technologique et scientifique avec le réchauffement climatique. Cette désillusion, elle est vécue par notre génération et des élèves qui sont actuellement au lycée. Est-ce qu'elle peut expliquer ce changement de paradigme par rapport à la vision qu'on a des sciences et du désintérêt pour les mathématiques et les autres sciences?
Moi, je ne sais pas si j'aurais de réponse vraiment pertinente à ce genre de questions générales. Mais ce que vous avez dit, c'était intéressant. Vous avez dit qu'il y a eu un essor des sciences. Probablement aussi à travers les mathématiques.
Vous avez vu réagir quand j'ai dit ça, je
sais. Oui, j'ai fait une bêtise. Non, en fait, c'est vrai. Mais en fait, c'est tout ce qui est supposé par cette affirmation. Comme si cet essor était apparu miraculeusement dans la deuxième moitié du XXe siècle.
Une accélération, j'aurais dû dire, peut-être.
Accélération, oui, mais pourquoi ? La question, c'est qu'est-ce qui a été la base de ces grands changements ? En fait, ces grands changements, ils sont nés à la fin du XIXe siècle. Notamment dans le développement de nouvelles mathématiques, pour comprendre par exemple les géométries non euclidiennes, c'est-à-dire la géométrie mais pas comme celle qu'on fait au collège, essentiellement. Mais ces questions qui remontent à des vieilles questions qui étaient motivées par Euclide. Euclide, c'est il y a des millénaires. Il y avait des vieilles questions de mathématiques qui intéressaient surtout des gens qui faisaient de la géométrie. Et plus ils ont exploré ces questions, plus ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait peut-être pas dans certains postulats d'Euclide. Et toutes les géométries non euclidiennes ont émergé en mathématiques et ont rendu possible de formuler une théorie qui s'appelle la théorie de la relativité, par exemple, sans tout ce travail a priori complètement abstrait. On n'aurait jamais développé la théorie de la relativité, on n'aurait jamais développé la physique quantique, et on n'a pas développé la physique quantique à l'origine parce qu'on pensait à des applications qui ont eu lieu dans la deuxième moitié du XXe siècle. Par exemple, le transistor. Tous les appareils électroniques contiennent des transistors aujourd'hui. On n'a pas inventé la physique quantique pour ça. Une des applications de la théorie de la relativité, c'est le GPS. On n'a jamais imaginé de concevoir la théorie de la relativité au début du XXe siècle en pensant au GPS. On a développé ces sciences pour différentes raisons, des motivations peut-être purement scientifiques, purement abstraites, peut-être aussi pour la beauté. Et il se trouve que beaucoup plus tard, des années plus tard, on s'est rendu compte de toute la puissance de ces inventions.
On se laisse maintenant pour une petite pause musicale.
Avec la même petite veste, on perd le nord dans leur guerre east-west. Salut, c'est cool, deviens bonjour, tristesse. Oh, le monde est beau, et celui-là, c'est le nôtre. Enlève la pierre que tu caches sous tes côtes. Des fois, je fais de la merde, mais c'est jamais de ma faute. Car le problème sera toujours les autres. J'roule les R comme Jack, les congés. J'connais App, les congés. L'éponge, on abrège tous nos projets. Mais j'ai promis à Madjé de la faire voyager. Alors j'enchaîne scène sur scène et fume l'herbe qu'on m'a coupée sous le pied. C'est les patrons contre les pédalos. La mer commence à ouvrir Donatello. Je regarde le ciel, je sais même plus s'il fait beau. Pour sauver le monde, moi j'ai qu'un projet d'Emma. Oh 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 oh, dame. C'est ni ta faute ni de la mienne. Et quand on vient, même c'est la même. Avec du bando, on récolte ce que l'on sème. C'était E2, c'est l'Y, my man. C'est ni ta faute ni de la mienne. Et quand on perd, même c'est la même. On récolte ce que l'on sème, vêtu du bando. Deli della mundo coupe le tempo. La glace fond et le plastique reste. J'traverse ces saisons avec la même petite veste. On perd le nord dans leur guerre east-west. Salut, c'est cool, deviens bonjour, tristesse. Oh, le monde est beau et celui-là, c'est le nôtre. Enlève la pierre que tu casses
visage, sous tes côtes. Des fois je fais de la merde, mais c'est jamais de ma faute. Car le problème sera toujours les autres. Je voulais R comme Jack. Des congés, je connais App. Des congés, l'éponge. On abrège tous nos projets. Mais j'ai promis à ma J de la faire voyager. Alors j'enchaîne, scène sur scène. Et fume l'herbe qu'on m'a coupé sous le pied.
Vous venez d'écouter La Glace de l'artiste Bigaranx. Il est 18h25 et vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus. Vous allez maintenant pouvoir écouter un reportage de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Nos collègues de Radio G sont partis à la rencontre de Place au Vélo Angers, une association qui agit pour l'avenir du vélo dans l'agglomération angevine. Et on écoute ça tout de suite.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
On ressort le vélo parce qu'on se rend compte que c'est un moyen de transport qui fonctionne bien, c'est même résilient, je dirais. C'est souvent ce qu'on met en avant. L'électrification des vélos est venue aussi mettre un coup de boost, en plus du Covid, en plus des grèves de transport.
Depuis la fin des années 90, plusieurs associations ont vu le jour pour promouvoir l'usage du vélo en ville, en Pays de la Loire. Parmi elles, on retrouve Laval, Nantes, ou encore Saumur. Quant à l'agglomération angevine, c'est l'AUVA, devenue Place au Vélo Angers, qui œuvre pour les cyclistes. Nicolas Marty, son coprésident, nous en détaille les objectifs ainsi que les actions.
Alors les objectifs sont nombreux dans le sens où on est une association qui intervient sur l'ensemble de l'écosystème vélo. L'écosystème vélo, c'est plaidoyer pour aménager l'espace public en faveur des cyclistes, mais aussi des piétons. L'idée est que lorsqu'on crée des aménagements cyclables, on améliore aussi la condition du piéton. De former, que ce soit les enfants ou les adultes, lors de séances de vélo-école. On a une salariée aujourd'hui qui intervient dans les entreprises. On intervient sur du marquage anti-vol. L'idée étant de faire identifier votre vélo. On fait des balades aussi pour vous aider à découvrir les aménagements sur l'ensemble de l'agglomération. Et puis après, on va avoir différents événements aussi qu'on va organiser, type atelier de co-réparation. On vous apprend à bien régler les freins, à bien régler la selle, à vérifier que vos éclairages fonctionnent. On va créer ce qu'on appelle un peu une vélonomie, c'est-à-dire une autonomie à vélo.
À quelle échelle œuvrez-vous pour le vélo ?
Effectivement, le nom, c'est Place au Vélo Angers, mais on intervient en fait sur l'ensemble de l'agglomération angevine, l'agglomération d'Angers. Et on fait aussi partie à la fois d'un collectif Vélo Pays de la Loire et on est membre aussi de la Fédération des usagers de la bicyclette qui, elle, œuvre au niveau national.
Dans vos actions, il y en a une qui s'appelle le baromètre des villes cyclables.
Oui.
Alors, comment s'en sort Angers ?
Angers est l'une des villes les plus cyclables de France. Angers est dans le top 10. Des villes cyclables. Historiquement, elle est bien développée. On a la Loire à vélo et la Vélo Francette qui passent par Angers. Aujourd'hui, alors le dernier baromètre, le résultat est en début d'année. Je dirais qu'Angers finalement a pris un peu de retard par rapport à des villes qui ont une volonté plus forte d'expérimenter en sortie de Covid, en sortie du déconfinement. Donc finalement, Angers se situe toujours aussi bien au niveau national, mais prend du retard sur les aménagements qu'elle propose.
Donc avec ce boom du vélo dont vous nous parlez depuis tout à l'heure, est-ce qu'il y a une économie du vélo qui s'est formée sur Angers ces derniers temps ?
Il y a une association qui s'appelle les boîtes à vélo, qui s'est créée à Angers il y a quelques années. Je crois, je vais dire de tête, on a au moins une quinzaine d'entreprises qui font partie des associations de la boîte, des boîtes au vélo à Angers. C'est peut-être l'une des villes où on a le plus d'associations à vélo, d'entreprises à vélo sur Angers. Donc il y a une vraie économie du vélo qui se met en place. Et c'est là où le vélo, économiquement, est très intéressant. C'est que c'est moins de charges pour les entreprises plutôt que de devoir faire transporter un camion. Et c'est moins de contraintes aussi.
Mais comment faire pour dépasser les a priori qu'il peut y avoir sur le vélo ? Là, je pense au danger, au coût. À l'organisation que ça implique pour les entreprises, etc. Comment on fait ?
Il faut se donner des petits objectifs. Le premier frein aujourd'hui pour les gens pour passer à vélo, c'est la sécurité. Donc l'aménagement de l'espace public, il est nécessaire. Il faut redonner aujourd'hui de la place au vélo pour sécuriser ses déplacements. Sans ça, ou sans baisse de trafic, Les gens ne se mettront pas à vélo par peur, malheureusement, d'avoir un accident. Pouvoir attacher son vélo en sécurité, chez soi et dans l'entreprise. Avoir un aménagement de l'espace public qui me permette de circuler en sécurité. Avoir des outils, des services qui me permettent de déterminer les trajets. Et puis ensuite, ça peut être une incitation financière. On rembourse 50% des frais de transport en commun aujourd'hui dans les entreprises. On peut avoir des voitures de service. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des vélos de service ?
Pour conclure, que diriez-vous aux auditeurs qui hésitent depuis quelques mois, quelques années, à ranger la voiture au garage et à vivre au rythme de la pédale et de se mettre définitivement au vélo ?
Une phrase, je dirais qu'il faut toujours commencer petit, se donner un petit objectif, de dire pourquoi pas un trajet par semaine à vélo. Vous l'essayez un jour, peut-être juste le week-end, le dimanche, il y a moins de trafic, et vous voyez si ça vous convient. Et plus on est nombreux sur la route, plus on se sent en sécurité. Donc plus on sera cycliste, plus on sera trottinettiste, plus on se sentira tous ensemble en sécurité. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre.
Découvrez Place au Vélo à Angers sur leur site internet placeauvéloangers.fr et sur leurs réseaux sociaux. Mais vous pouvez aussi découvrir l'association Place au Vélo Nantes, Place au Vélo Laval ou bien Place au Vélo en Saumurois.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les reportages Pensée locale sur le site de la FRAP. On se laisse quelques instants pour une petite pause musicale.
citoyennes et citoyens angevins. Vous êtes également des citoyennes et des citoyens du monde. Et vous venez d'écouter C'est plein d'io de Amaru Tribé. Notre chère collègue Mathilde a pu accueillir deux membres de l'association Boîte à Malice pour discuter de parentalité et des divergences éducatives au sein du couple.
Votre association se situe à Saint-Georges-sur-Loire et propose une offre d'accueil petite enfance de proximité pour répondre aux besoins des familles. Vous avez également pour mission l'accompagnement à la parentalité à travers différentes activités, débats, mais aussi des pièces de théâtre participatives. Votre structure d'accueil est composée du relais petite enfance, des multi-accueils mille pattes et coxibules qui sont destinés aux enfants de 2 mois à 4 ans. Vous avez ciblé cette tranche d'âge. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là chez l'enfant ?
Alors, on parle beaucoup actuellement de la période des 1000 premiers jours de l'enfant, qui va de la grossesse jusqu'aux 2 ans, ce qui est une période de grande vulnérabilité de l'enfant. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, et j'ai envie de dire encore un peu après, on a, en tant que professionnel petite enfance, tout un rôle à jouer dans l'accompagnement. Et puis, j'ai envie de dire que les parents aussi expriment des besoins de présence, d'accompagnement, de soutien, d'espace d'échange divers et variés. Et c'est aussi là qu'on se situe en tant que professeur de petite enfance.
C'est une période fondamentale aussi dans l'éducation de l'enfant à ce moment-là.
Tout à fait, il y a beaucoup de jalons qui se posent à ce moment-là, de choses qui se jouent, et puis c'est une période de fort développement pour l'enfant. Donc en effet, que ce soit parent ou professionnel, on a un rôle à jouer à ce moment-là.
Vous organisez gratuitement des cafés de parents de jeunes enfants le troisième samedi de chaque mois. Comment ça se passe concrètement ? Vous créez du lien entre des parents qui ont les mêmes problématiques et les mêmes questionnements. Qu'est-ce qu'il en ressort de ces temps-là ?
Alors en fait, ces cafés des parents ont été organisés. On a répondu l'année dernière à un appel d'offres qui a été publié par l'ARS, justement dans le cadre des 1000 premiers jours de l'enfant. Et on a construit différents projets. Un projet qui s'appelle Petite question, grande réponse, en partenariat avec le centre social. Un projet Gribouillez-moi, donc autour de l'accueil des émotions du jeune enfant. Et un troisième sur l'éveil culturel et artistique du tout petit. Et du coup, les cafés des parents, enfin, on a essayé de construire cette offre, surtout petite question, grande réponse, à partir des besoins des parents, ce qu'exprimaient les parents. Donc le débat théâtral dont vous avez parlé juste avant a été le coup d'envoi, on va dire, de ce projet-là. Et suite à ce débat théâtral, on a envoyé un questionnaire aux familles. On a aussi écouté ce qu'ils disaient au moment des transmissions dans les structures, à différents endroits. Et il s'avère qui a eu des thèmes donc qu'il souhaitait creuser. Et puis également un besoin d'espace d'échange, surtout que ça se situait à ce moment-là, on va dire, aux sorties du Covid, où on avait tous été confinés et où effectivement les parents exprimaient des besoins d'échanger. Et les cafés des parents, l'idée c'était de les organiser dans une structure multi-accueil, donc Coxibule à Saint-Georges-sur-Loire, pour aussi ouvrir ces structures. Et également, donc on a fait appel à une personne. On co-construit beaucoup et on travaille beaucoup en partenariat. On a fait appel à Virginie Chégerin, qui est consultante familiale et conjugale, qui co-anime ces cafés parents. Et du coup, ce qu'il en ressort, c'est que... Enfin, on n'a pas donné un thème spécifique à chaque café. En fait, les parents qui s'inscrivent viennent avec leurs envies du jour, leurs questions du jour. Et l'idée, c'est de pouvoir construire ensemble, que professionnels et parents, chacun amène ce qu'il a envie ce jour-là, à ce moment-là. Et à partir de là, il y a un échange qui se met en place.
Vous avez eu des retours des parents qui ont assisté à ces cafés débats ?
Alors, le premier qui a eu lieu avant l'été a été un grand succès. Là, les familles étaient très, 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 très enthousiastes et on avait demandé à ce qu'effectivement ce soit une action qui soit reconduite. Donc, en effet, après là, on en a organisé un en septembre, un octobre. Bon, voilà, c'est en train de se mettre en place, se construire petit à petit, oui, progressivement. Donc, des retours, on en aura. Mais là, voilà, il n'y a pas eu trop peu de séances encore pour pouvoir en parler précisément dans ce qui s'y passe.
Alors, les enfants entrent à l'école à partir de 3 ans environ. On sait tous à quel point c'est une étape clé dans sa construction. Ça peut être compliqué pour un enfant. Comment est-ce qu'un enfant si petit fait-il pour ne pas être perturbé entre l'éducation qu'il reçoit à la maison et celle qu'il reçoit quand il arrive à l'école ?
C'est une question pour moi.
C'est une question pour toutes les deux. Comme
je dirais, en tant que parent, comment on peut amener de la sécurité affective en amont et en aval des journées de nos enfants, parce qu'ils passent du coup beaucoup de temps à l'école. Donc comment on va, par le jeu, par l'écoute active dont tu parlais, je ne sais pas ton prénom,
Anne-Lise.
Mais Anne-Lise. et j'ai bien aimé cette notion de époquer, c'est ça, de faire stop et de voir de quoi a besoin mon enfant et qu'est-ce que je peux faire pour lui. Donc ça va être, est-ce que c'est de faire un jeu le matin pour se reconnecter, libérer les tensions avant de partir à l'école. Est-ce que c'est refaire un jeu quand mon enfant revient de l'école avant les devoirs, avant le goûter, avant quoi que ce soit. Voilà. Et est-ce que je peux me mettre à sa hauteur et l'écouter de façon empathique? Tout ça, ça va nourrir vraiment la confiance. Et aussi, nous, on va avoir de plus en plus conscience de ce que vit notre enfant à l'école. Voilà. Donc moi, pour moi, c'est vraiment la confiance, la sécurité affective et l'écoute. L'écoute empathique, l'écoute active.
Alors, le 17 novembre, vous avez organisé une conférence intitulée « Couple, divergence éducative, accordons nos violons » ou « Comment éduquer nos enfants ensemble ». Quelles sont les principales causes de divergence éducative, lesquelles reviennent le plus souvent ou celles que vous avez remarquées, vous ?
Ce qui revient souvent, c'est que... Enfin, moi, j'aime bien explorer l'idée qu'il y a deux histoires qui se rencontrent. Quand l'enfant paraît, quand l'enfant arrive ou l'enfant naît, il y a une dimension parentale qui naît. Et là, il y a deux histoires qui vont se frotter. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir quelles sont nos valeurs communes. C'est quoi nos objectifs? C'est quoi notre boussole éducative, en fait? Parce que j'aime bien dire que dans tout projet, dans n'importe quel milieu, dans n'importe quelle thématique, pour construire un projet, on va chercher les objectifs, comment on va faire pour y arriver, quels sont nos alliés, quelles sont nos valeurs. Quand on devient parent, quand l'enfant il arrive, le projet il n'a pas trop été pensé, vous voyez. Et du coup, on se retrouve un peu démuni. Enfin, moi, quand mon premier fils est né il y a 27 ans, j'ai été très, très démuni. Parce que je n'avais pas travaillé en moi déjà. Qu'est-ce que je veux vraiment? Enfin, comment je vais poser les limites? Comment je vais... Est-ce que je vais combler les besoins de mon enfant, de mon enfant? Quels sont mes besoins à moi? Est-ce que je peux combler mes besoins par moi-même? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Toutes ces questions à se poser à deux ou individuellement, ça va faire aussi qu'il va y avoir de la connexion. Et plus il y a de la connexion, plus il y a de la confiance. Et en tout cas, l'idée, c'est d'avancer ensemble pour nos enfants. Donc, on va toujours se mettre d'accord pour nos enfants.
Ça peut être des divergences religieuses, sociales ou culturelles, par exemple. Je ne sais pas si vous rencontrez souvent ce genre de...
C'est plutôt... Ce que je rencontre, c'est des divergences éducatives, plutôt.
Qu'est-ce que vous appelez des divergences éducatives? Puisqu'effectivement, ça rejoint la question de Mathilde. Est-ce que c'est des divergences dans ce qu'on va donner comme patrimoine religieux, comme patrimoine culturel, comme patrimoine politique? Ou est-ce que c'est finalement, là, il a le droit de jouer, ou là, c'est l'heure des devoirs?
C'est plutôt ça. C'est plutôt comment nous avons été éduqués a une grande empreinte sur la façon dont on va éduquer nos enfants. Enfin, voilà, même si on ne veut pas reproduire, il y a certaines choses qu'on reproduit inconsciemment malgré nous. Donc, c'est intéressant d'aller voir chacun pour soi. Comment ça s'est passé pour moi le temps des repas? Comment ça s'est passé pour moi le temps du coucher? Comment ça s'est passé pour moi la pose de limite? C'est vraiment un gros sujet, hein, la pose de limite respectueuse. Enfin, moi, c'est vraiment le cœur de mon métier. Et c'est intéressant, en couple, de se dire, en fait, quand mon enfant fera telle ou telle expérience, est-ce que je vais lui taper la main? Est-ce que je vais lui dire deux, trois fois? Comment je vais faire? Et du coup, on va peut-être s'accorder, mais toujours pour le bien de nos enfants.
Est-ce qu'il y a une manière de faire précise? Ou est-ce que c'est à chaque couple de trouver sa manière de faire? Une manière de faire précise, j'entends une manière de faire que vous recommandez.
La manière qui me semble la plus juste, c'est la manière qui va être respectueuse de chacun. Donc, nous avons à poser nos limites, mais en fait, chacun pose ses limites. Vous, moi, on pose
l'enfant
nos limites.
Aussi.
Et l'enfant pose ses limites. Et comment on va faire pour s'accorder? Parce que quelquefois, les limites des uns ne correspondent pas aux limites des autres. Mais il y a toujours une solution en mode gagnant-gagnant. C'est ce qu'a développé Thomas Gordon aussi. En plus de l'écoute active, il y a en mode gagnant-gagnant. Ok, toi, tu as ce besoin-là, moi j'ai ce besoin-là, ils sont en compétition. Mais comment on peut faire un pas vers l'autre pour que la solution soit trouvée par nous?
Alors, quelles peuvent être les conséquences de ces divergences justement sur l'enfant? De ces divergences éducatives, j'entends.
Les seules conséquences que je vois qui seraient problématiques, c'est s'il y a de la violence, en fait. Sinon, en fait, qu'on soit pas d'accord avec le conjoint, c'est pas problématique, en fait. Parce que, enfin, nos enfants apprennent beaucoup par modélisation. Du coup, de voir un couple, nos parents, notre père, notre mère, se disputer, mais trouver au final une solution, un accord, ça, c'est un modèle très vertueux, en fait. Plutôt que, peut-être comme nous, nos parents qui se disputaient, et en fait, le conflit reste le conflit, il est larvé, il n'y a pas de solution, et puis on n'en parle plus, il est plus ou moins recouvert, et puis il ressort à un moment donné, de toute façon.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution dans l'éducation justement qu'on donne à nos enfants parce que vous disiez vos parents qui se disputaient, ça a changé aujourd'hui?
J'ai l'impression que ça change. J'ai l'impression qu'il y a du changement. Je le vois dans les ateliers que je propose de soutien à la parentalité.
En même temps, les personnes qui participent à ces ateliers de soutien sont des personnes qui veulent changer. Donc évidemment, vous voyez le changement, mais de manière générale.
De manière générale, malheureusement, il y a un tout petit changement qui n'est pas assez,
d'accord.
qui est pas assez grand à mon sens, mais c'est une bonne question. C'est ça, et c'est exactement ça. Il y a beaucoup de personnes que j'accompagne, soit en individuel, soit en groupe, qui sont déjà un peu sensibilisées, enfin qui veulent faire autrement. Bon, donc c'est voilà, mais il y a des personnes que j'aimerais bien, par exemple, j'interviens pour Médiation 49 dans des stages de responsabilité parentale, donc là c'est des parents qui sont auteurs de violences et que j'accompagne, et vraiment, ces personnes-là, elles sont laissées pour compte, elles sont abandonnées de la société. Il n'y a pas d'endroit où on va pouvoir les accompagner. Donc en fait, pour certaines personnes, ça ne change pas, puisque l'éducation violente, eh ben, se perpétue malheureusement.
Comment faire pour aller chercher ces personnes-là justement?
Alors, ça peut passer par des ateliers parents-enfants par exemple, ou alors des ateliers de cuisine, ou en tout cas tout ce qui va ne pas paraître atelier de parentalité ou de conférence, parce que c'est un gros mot, hein, conférence. Donc on va plutôt appeler ça venez jouer avec vos enfants, venez faire de la cuisine entre maman ou papa. Enfin, je dis maman parce que c'est les mamans qui cuisinent la plupart du temps. ça change pas beaucoup malheureusement, mais donc on va essayer de trouver des biais, des portes d'entrée qui vont être non culpabilisantes, parce que en fait il y a des injonctions très très fortes aussi sur les parents aujourd'hui de cette parentalité positive dont je fais partie. Enfin, moi ma formatrice a créé un réseau qui s'appelle parentalité créative, et je préfère ce mot de créatif plutôt que positif, parce que positif ça induit qu'il y en a qui feraient de la parentalité négative, donc c'est très culpabilisant. Donc comment trouver des biais pour ne pas être dans la culpabilité de « tu devrais faire comme ça, tu fais pas bien ». Non, en fait, tout le monde fait ce qu'il peut, vraiment, et tout le monde a des bonnes raisons de faire ce qu'il fait.
Quels sont les outils et les stratégies que vous mettez en place pour aider les parents, et comment est-ce que vous intégrez justement l'enfant dans cette démarche aussi?
Alors, j'intègre pas l'enfant dans la démarche. Enfin, je sais pas quelle est ta question précise.
Ou est-ce que vous l'intégrez, l'enfant, dans cette démarche, vous aidez les parents, mais l'enfant nécessairement à sa place.
Oui, il est forcément intégré, mais l'idée, ça va être comment je peux susciter la coopération de mon enfant. Et là, évidemment, il est intégré. Ensuite, mes outils, c'est l'écoute empathique, l'écoute active. Donc, un de mes ateliers phares, c'est un atelier où on va faire une initiation à l'écoute empathique. On va s'exercer à faire des messages d'écoute à notre enfant quand il revient de l'école, par exemple, et qui dit « j'en ai marre, j'irai plus jamais à l'école ». Ah, t'as vraiment plus envie d'aller à l'école? C'est difficile pour toi? qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'on en parle? Voilà, ça c'est de l'écoute empathique. Évidemment, il y a le jeu qui pour moi est un outil magique. C'est un outil thérapeutique pour moi, le jeu vraiment, hein, des jeux tout simples, hein, des jeux de chahut qui vont faire décharger les tensions, qui vont faire rire, qui vont amener du contact physique chaleureux. Enfin voilà, le jeu. Et puis l'exploration des besoins de chacun. Ah tiens, j'ai des besoins en tant qu'adulte et mon enfant aussi. Donc voilà, explorer mes besoins, explorer les besoins de mes enfants. Et aussi l'idée que les émotions, c'est un processus physiologique de guérison. Ça, c'est complètement, ça vient complètement bousculer ce qu'on pensait avant, que l'émotion, ah pas d'émotion, non, ne te mets pas en colère, non, ne pleure pas. Non, là, on sait qu'aujourd'hui, avec les neurosciences affectives et sociales, que les émotions, ce sont des processus physiologiques de guérison. Donc, comment on va accompagner nos enfants à traverser leurs émotions, mais nous aussi, comment on va retrouver le chemin de nos émotions? Et du coup, si on retrouve le chemin de nos émotions, on va mieux vivre.
C'est trouver vraiment un terrain d'entente aussi entre l'enfant et le parent.
C'est ça, c'est voir comment on peut coopérer. Quand on vit avec plusieurs personnes, enfants ou adultes, ben, à un moment donné, ça se frotte tout ça. Donc comment on coexiste ensemble?
Ouais. Alors, depuis le début des années 2010, 425 000 séparations conjugales, divorces, ruptures de pacs ou d'unions libres ont lieu en moyenne chaque année et environ 379 000 enfants mineurs expérimentent la rupture de l'union des adultes qui en ont la charge. Quand on est parent séparé, comment réussir à maintenir un lien sain pour l'éducation de son enfant?
Comment maintenir un lien sain avec l'autre conjoint?
Oui.
C'est difficile comme question, hein, parce que je ne sais pas s'il y a une réponse globale, parce que ça dépend vraiment du contexte. Il y a des séparations qui sont douloureuses.
Est-ce que c'est possible de maintenir un lien sain pour l'enfant?
Oui, c'est possible.
C'est possible de se construire en tant qu'enfant avec des parents divorcés?
Alors, c'est possible de se construire tout à fait de manière optimale en ayant des parents séparés, si on reçoit de l'attention, de l'amour de chacun de ses parents et que les deux parents ne sont pas toujours en train de se dénigrer l'un et l'autre. Il faut vraiment un climat affectif chaleureux et que chacun soit bien conscient, parce que quelquefois on charge nos enfants de notre propre histoire douloureuse. Donc voilà, pour nous adultes, il y a à tirer des fils de qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à mon enfant.
Comment est-ce que vous accompagnez justement les parents qui se retrouvent dans cette situation pour ne pas que ça nuise à l'enfant?
Alors moi, je crois que je cherche pas forcément à amener un terrain d'entente. Enfin, ça dépend des situations. Mais moi, ce qui m'intéresse, et c'est le cœur de mon métier, c'est la relation parent-enfant. Donc moi, je vais vraiment axer mon accompagnement sur nourrir ce lien parent-enfant, mère-enfant, père-enfant. Comment on peut nourrir le lien par le jeu, par l'écoute, par du temps particulier, par, reprendre des albums photos de quand nos enfants étaient tout petits, quand ils sont nés, et leur redire combien on les a, combien on est tombé en amour pour eux. Vraiment, c'est le comment on peut faire fleurir ce lien parent-enfant.
Et comment est-ce qu'on peut gérer l'éducation d'un enfant quand on traverse une crise de couple? Il faut communiquer avec lui, dire ce qui ne va pas.
Ou bien le préserver en ne l'impliquant pas dans ces problématiques
ça.
De couple.
Ouais, moi je pense que, enfin, je suis convaincue que nos enfants savent très bien ce qu'on vit, mais de manière plutôt inconsciente, enfin de manière un peu sensible comme ça, et que c'est peut-être opportun de poser des mots. C'est difficile entre nous en ce moment. Tu as dû le remarquer. Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens? Mais t'inquiète pas, on va y arriver. On va traverser ça. On va y arriver avec ton papa ou avec ta maman. Et surtout, ne t'inquiète pas.
Bon,
on va toujours t'aimer. On va t'aimer. Voilà. Et peut-être que s'il y a séparation, on verra comment on fait.
Oui.
Donc, il ne faut pas nécessairement marquer une frontière entre sa vie privée, dans le couple, et sa vie éducative. Enfin, de vie éducative, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, le rapport à son enfant.
Moi, j'aime bien dire que ce qui est important, je crois, c'est qu'on parle de nos sentiments. En ce moment, je suis triste parce qu'avec ton papa, par exemple, c'est difficile. Voilà, et de dire ça sans rentrer dans les détails, pourquoi, pour qu'est-ce, en fait là l'enfant il n'est pas du tout concerné, mais par contre il est concerné par nos sentiments, nos émotions, et aussi qu'est-ce qui va se passer pour lui. En fait c'est en termes de sécurité affective, ne t'inquiète pas, en fait on t'aimera toujours et on trouvera toujours des solutions pour que tu sois en sécurité, mais pour l'instant en fait on est en difficulté avec ton papa, mais on y travaille, on voit un thérapeute, on y travaille.
Merci beaucoup Sophie Bouvet et Émilie Froger pour cette interview.
Merci.
Plaisir, merci.
Malheureusement l'heure tourne et le sous-marin remonte vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à Margot pour sa chronique. À la technique, c'était ma chère collègue Alice. Merci à elle pour son engagement. Merci à toi, Adèle. Si vous êtes tombé en coup de cœur sur sa voix, sachez que c'est elle qui s'occupe de notre page Facebook et de notre page Instagram. N'hésitez vraiment pas. Alors moi, j'ai pas Facebook parce que je suis vraiment de la Gen Z, voilà. Donc vraiment, Facebook pour moi, ça n'existe plus. Mais la page Insta est vraiment super chouette.
Merci
et si vous voulez
beaucoup.
Juste avoir des insides de la radio ou gagner des lots, voilà, gagner des.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux concours.
Voilà. On se retrouve demain à 18h pour le prochain sous-marin. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. Ah oui.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.